Marceau le midi.
13h34 minutes. Ah, la prochaine que je vais recevoir, je l'admire beaucoup. Ben, d'ailleurs, elle a le même nom de famille que moi, là.
Mais c'est pas dans ta famille, parce que clairement...
C'est pas dans ma famille.
En même temps, je veux pas insulter personne.
Exact.
Mais ça. J'allais dire que y en a... si elle était de ta famille, lors de l'accouchement, il y en a une qui était plus chanceuse que l'autre par rapport à l'intelligence.
Certains pourraient penser que je suis adoptée. Qui sait?
C'est...
Elle a la beauté de la famille Marceau, par exemple.
Oui, t'as raison.
On
absolument.
Va se le dire.
On lui donne. Hein? Elle est brillante et très jolie.
C'est la documentariste et journaliste Karina Marceau qui est avec nous. Salut, Karina!
Salut. Quand je vais avoir un petit coup de blues, là, je pense que je vais vous demander, je peux-tu aller à votre émission aujourd'hui? Il me semble que j'aurais besoin d'un petit pep talk, là.
Tu peux venir quand tu veux, mais il faut que tu sois prête à entendre des affaires un peu bizarres pendant les pauses. Je peux te le dire.
Oui, ben ça, je sais. Mais je commence à vous connaître.
Karina Marceau, dans quelques jours, on va avoir la chance de voir ton documentaire « Fusillade au Parlement ». On revient sur Denis Lortie. Le 8 mai en 1984, un homme qui est rentré à l'Assemblée nationale lourdement armé, qui a tué trois personnes et qui a fait 16 blessés et qui a marqué à vie l'histoire du Québec. Pourquoi avoir décidé de revisiter cet épisode-là dans notre vie?
Ben, en fait, je pense que c'est le sujet qui m'a choisi. Parce que c'était pas du tout sur mon radar. Quoique moi, je m'en souviens évidemment de cet événement-là, contrairement à Pascal, qui n'était pas né. Alors, hein, on voit qu'on n'est pas de la même génération.
Non, 10 ans plus tard, je naissais. Par contre, je sais que ça a été imprimé dans nos livres d'histoire. Ça a été enseigné à l'école, même médiatiquement parlant. Tous les animateurs avec qui j'ai travaillé et qui ont vécu cette portion-là de la tragédie de Québec en parlent avec de précieux, voire tragiques souvenirs.
Mais en fait, moi, ça se trouve être le premier moment de ma vie. J'avais 12 ans à l'époque. Ça vous donne une idée de l'âge que j'ai, si vous faites le calcul. Mais c'est le premier moment où je me souviens d'avoir été frappée par la tragédie. La tragédie, excusez-moi, j'ai la ligne qui sonne, je ne répondrai pas, mais la tragédie qui affecte ma ville si calme de Québec. Et là, tout d'un coup, il y a un homme armé qui rentre au Parlement et qui tue des gens. Et puis, je me souviens de l'émotion de mes parents. En fait, c'était un moment très, très important. Il y a des moments comme ça dans notre existence là où on se souvient où on était. Hein, on se souvient de la météo, etc., 2001, certains moments. Bon, mais ça, c'est mon premier moment marquant. Mais pour revenir à la petite histoire du documentaire, c'est que je travaillais sur un autre projet sur France Alain, qui est un meurtre qui a aussi marqué la ville de Québec, qui n'est toujours pas résolu. Et je rencontre donc Bernard Arsenault, qui est un négociateur de la Sûreté du Québec, dans le cadre de ce podcast-là, cette balado-là. Et comme je fais toujours avec les gens que je rencontre, « Ah oui, vous avez été policier, ça a été quoi les moments importants de votre carrière? » Et il me raconte que c'est lui qui a négocié la reddition de Denis Lortie. Oh. Mais considérant le fait que René Jalbert, pour ceux et celles qui s'en souviennent et ceux qui ne le savent pas, René Jalbert, qui était le sergent d'armes au Parlement, c'est lui qui a mobilisé, qui a réussi à calmer Denis Lortie lors de la fusillade. C'est un héros, en fait. Il a fait des gestes tout à fait, qui dépassent l'entendement. Tu sais, rentrer dans le salon bleu alors qu'il y a quelqu'un qui est lourdement armé puis se mettre à jaser avec lui et de réussir à le calmer. Oui. On a donc retenu René Jalbert qui a fait écran au travail des policiers, et c'est tout à fait normal, là, je dis pas ça. Il y a pas de reproche dans ce que je dis, mais toujours est-il qu'on n'a jamais entendu la version des policiers qui sont entrés au Parlement cette journée-là et qui sont entrés, il n'y avait pas de veste pare-balles, pratiquement pas armés, il n'y avait pas de radio, il n'y avait aucun moyen de communication. Bref, quand il me parlait, Bernard Arsenault, je disais, OK, il faut vraiment raconter cette partie-là de l'histoire qu'on ne connaît pas. Et c'est comme ça, donc, qu'est né ce projet de documentaire.
Le 8 mai 1984, Denis Lortie avait planifié de tuer le premier ministre du Québec. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était René Lévesque qui était là à l'époque.
Absolument, absolument. En fait, et c'est ce que nous raconte son avocat, Maître Jacques Larochelle, qui l'a défendu dans son deuxième procès, parce qu'il y a eu deux procès. Oui. Maître Larochelle, qui a eu d'ailleurs l'autorisation de Denis Lortie pour nous parler, qui nous raconte que évidemment, Denis Lortie n'allait pas bien cette journée-là. Là. Ça faisait un bout de temps qu'il avait des problèmes de santé mentale et il a été, dire même de mettre La Rochelle, ça a été une histoire de violence familiale épouvantable. Autant Denis Lortie, ses frères et sœurs, que la mère, ils ont vécu une journée, pas en fait une journée, mais ils ont vécu une vie d'horreur. Et dans la folie de Denis Lortie, c'est comme si René Lévesque était le père de la nation et qu'il allait faire aussi mal aux Québécois que son père avait fait mal à sa famille en entier. Donc, il est rentré dans une espèce de folie. Et ce qu'il devait faire, lui, c'est donc de tuer René Lévesque pour sauver les Québécois de ce père de la patrie si méchant. Donc, on comprend que ça va absolument pas bien, là. Et donc, il y avait comme était fixé une fixation, je vais tuer René Lévesque. Puis, il avait fait du repérage la veille. Il avait été au Parlement pour savoir quand est-ce que le gouvernement siégeait. Et il avait eu une mauvaise information. Dieu merci, ça c'est. Il y a quelques éléments dans l'histoire qui ont sauvé la mise parce que le gouvernement en entier aurait pu être décimé s'il est arrivé à la bonne heure. Donc, il est arrivé à 10 heures. Il y avait personne qui siégeait, mais il y avait une commission parlementaire de l'étude des crédits. Donc, il y avait des fonctionnaires qui étaient là dans l'antichambre du Salon Bleu. Et c'est là qu'ont été les principales victimes. On a des gens qui étaient dans cette antichambre-là qui ont vu Denis Lortie entrée lourdement armée, qui a dit « je fais le ménage » et qui s'est mis à tirer dans le tas des gens qui, pour la plupart, disent « ma vie est finie ». Puis rappelons-nous que avant qu'on sache qu'il n'y en avait qu'un assaillant, ça a pris un certain temps parce que tout le monde s'est dit « ok, il y a un coup d'État, sont plusieurs ». Les policiers sont entrés dans ce territoire de guerre-là qui pensaient aussi qu'il y en avait plusieurs. Le Parlement, il y a des labyrinthes. Bref, quand il nous raconte ça, ça donne vraiment la chair de poule.
Karina, son délire a duré des jours et des jours. C'est un militaire qui était basé en Ontario, à la base militaire de Carp en Ontario. Il a fait le train, il est parti de l'Ontario, il a descendu vers Québec, comme tu l'as dit. Il a fait de la reconnaissance, il a fait une cassette, il a enregistré une cassette qu'il avait livrée cette journée-là à André Arthur, qui était qui était comme le gros animateur de l'époque. Je sais que tu es curieuse, t'as-tu tenté parce que tu avais un contact avec Maître La Rochelle, t'as-tu tenté de le rejoindre, lui, Denis Lortie, qui a fait un peu de temps en prison, mais par la suite, il a été libéré, il est devenu propriétaire d'un dépanneur, puis on n'a plus entendu parler de Denis Lortie. T'as-tu essayé de le rencontrer?
Mais on s'est posé la question. Toute l'équipe de Taïga, qui est la boîte de production de Québec avec qui j'ai fait ce projet-là, Isabelle Lacasse qui a fait un travail extraordinaire à la recherche, on s'est posé la question. Est-ce qu'on va le chercher? Est-ce qu'on va faire une entrevue avec lui? C'est sûr que ça aurait été, sur le plan médiatique, un coup de circuit là, de faire une entrevue avec lui. Mais c'est pas ça le focus. Nous, on voulait vraiment parler des enquêteurs, parler de comment le négociateur a réussi à faire en sorte que la crise se solde finalement sans autre victime. Parce qu'il a fait ses premières victimes dans les trois premières minutes. Après ça, quand René Jalbert est entré en scène, il n'y en a pas eu d'autres victimes. Puis on trouvait que de mettre l'emphase sur Denis Lortie plutôt que les héros, plutôt que les victimes, c'était peut-être encore tourner le couteau dans la plaie de gens qui n'en avaient pas besoin. Donc,
aviez-vous peur de vous faire accuser de sensationnalisme par ça aussi?
Bien, pas peur de se faire accuser de sensationnalisme, mais la journaliste que je suis se l'est dit que ce serait purement du sensationnalisme, mais pas purement. Probablement qu'il y a des choses intéressantes, il a fait un retour sur lui-même, il y aurait sans doute façon de le faire sans que ça tombe trop dans le sensationnalisme.
Mais l'aspect psychologique, Karina, de ça, tu sais... Puis le documentaire, moi, j'ai très hâte de le voir. J'ai hâte de voir à qui vous avez parlé aussi. Moi, je me rappellerai toujours d'une conversation avec Bruno Perron, ex-journaliste à ce moment-là, qui avait été quand même très impliqué aussi dans cette tragédie-là. L'aspect psychologique, puis je fais le pont entre Empathie, là, qui est une série québécoise en ce moment, qui joue sur Crave, qui s'en va dans un institut, carcéral, si on veut, où il y a l'implication de gens qui ont des troubles de santé mentaux et qui ont été, justement, des criminels. Fait partie de tout ça. Est-ce que ça a été évoqué, par contre, par ceux que vous avez interviewés, sans avoir à parler à Denis Lortie? Est-ce que des gens ont avancé peut-être cette détresse-là de Denis Lortie?
Oui, ben justement, Maître La Rochelle nous en parle. Puis, petite parenthèse, Bruno Perron, qui était effectivement le premier journaliste qui est arrivé sur place
Oui.
et dans le documentaire qui sera diffusé samedi à Historia à 20h. Mais donc, oui, Maître La Rochelle nous parle de son état de santé mentale qui était, t'sais, on le voit sur les images et vous allez le voir sur les images qu'il y a dans le documentaire. C'est clairement un homme qui ne va pas bien. Il tire son dentier, il est décousu. Mais donc, le souci aussi dans cette histoire-là, c'est que lors du premier procès, les premiers avocats ont plaidé l'aliénation mentale. Or, selon le code criminel, selon l'article du code criminel qui n'a pas été revisité depuis des décennies, pour pouvoir bénéficier de cette défense-là, il ne faut pas avoir conscience des gestes posés. Or, et ça, c'est probablement une première mondiale aussi, ça a été filmé, donc, cet événement-là, et on entend clairement Denis Lortie dire: mais je ne sais pas combien j'en ai tué. Donc, il était conscient qu'il avait commis des gestes. Il était conscient du bien et du mal parce qu'il parle de victimes tuées. Donc, c'était impossible de plaider, en quelque sorte, l'aliénation mentale. Et ça a été donc. C'est pour ça il y a eu un deuxième procès de Denis Lortie. Et là, ils ont plaidé qu'il y avait des problèmes de santé mentale, mais pas l'aliénation mentale. Mais donc, oui, on l'évoque dans le documentaire, mais ce n'est pas l'angle premier d'analyse vraiment de ce documentaire-là qu'on vous offre cette semaine, mais c'est vraiment tout ce qui est l'opération policière. Denis Lortie faisait une fixation sur l'honneur militaire. Pour lui, c'était très, très important et c'est finalement la ficelle sur laquelle les négociateurs ont tiré parce que ça revenait l'honneur. Et puis donc, pour réussir à convaincre Denis Lortie de se livrer, il fallait qu'il y ait une espèce de rituel militaire entourant sa reddition. Et donc, il faut s'imaginer, en 1984, il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien, là. Donc, les négociateurs sont là, puis ils sentent qu'ils ont un filon. Donc, là, ils demandent aux enquêteurs: OK, trouvez-moi des protocoles de reddition militaire qui datent de plusieurs décennies pour qu'on puisse calquer un processus de reddition qui va être approuvé par Denis Lortie, qui va sentir qu'il se rend dans l'honneur. Donc, c'est toutes ces tractations-là dont on n'a jamais entendu parler que vous allez découvrir dans le documentaire Fusillade au Parlement.
C'est incroyable. Moi, j'ai vu les extraits du documentaire. En fait, quand tu parles de Denis Lortie qui tire son dentier, j'ai tout vu ça. Mais moi, ce qui m'impressionne, bon, tu l'as dit tantôt, c'est la job de Jalbert, puis tous les policiers qui étaient là. Parce que quand même, 3 morts, 16 blessés en 84 avec Denis Lortie au Parlement de Québec. Quand il est passé devant les policiers, comment les policiers ont fait pour se retenir de le tirer, Karina? Tu leur as-tu demandé?
Ah oui, ben il y a comme des moments où là, il te raconte ça. Il te raconte les heures de la prise d'otage. Ben, en fait, la prise d'otage. Jalbert était-il, oui, un otage, mais tu sais, c'est quand même un peu flou le rôle oui, c'était un otage, mais c'était Monsieur Jalbert qui avait quand même le contrôle de la situation, fait que c'est un otage singulier. Mais donc, il y a des moments dans l'histoire où la tension est tellement élevée quand il raconte que je me disais: OK, comment moi je vais réussir à rendre ça sur le plan de la réalisation? Parce qu'on s'entend que on a, oui, des images du Salon Bleu, mais ces images-là de quand Denis Lortie et René Jalbert passent devant les policiers, puis là, sont 4 policiers, tout le monde est armé jusqu'aux dents, puis là, ils disent: OK, là, on sait que s'il y en a un qui se met à tirer, tout le monde va tirer, puis on est tous morts. Puis que là, il y a comme une confusion parce que les agents de la Sûreté du Québec sont habillés en kaki à l'époque. Les militaires aussi, le costume de l'armée canadienne est kaki. Donc là, Denis Lortie, c'est pas trop si c'est des policiers ou c'est des militaires. Donc là, il y a une confusion, mais là, finalement, il y a comme un respect qui s'installe et il laisse passer Denis Lortie et René Jalbert, mais tout le monde se regarde, on le doit sur la gâchette. C'est des mitraillettes qui tirent je sais pas combien de balles à la seconde.
Ah, sont
Alors,
très
alors
courageux.
tu te dis: OK, s'il
Hey.
y en a qui tirent, c'est bon, c'est ça, c'est le carnage. Puis un autre moment aussi où Denis Lortie est assis, là on remonte un petit peu dans le temps, on est encore dans le Salon Bleu au Parlement. Denis Lortie est assis sur la chaise du président. Et ça, c'est une image qui est d'une puissance, là. Quand on y pense, là, vous avez un militaire habillé en armée canadienne, assis sur le siège du président de l'Assemblée nationale du Québec. On est dans les années 80, le premier référendum vient de se passer. Il y a une tension politique entre les deux solitudes. Donc ça, c'est une image très, très forte. Et là, vous avez un sniper, un tireur d'élite de la Sûreté du Québec qui a Denis Lortie dans sa mire. Et qui, là, on se pose la question, on le tire dessus? Si on le tire, c'est fini, c'est réglé. T'sais, ça s'arrête là, il n'y a pas d'autre mort. Mais les policiers ne veulent pas non plus exécuter. S'il n'est pas dangereux à ce moment-là, est-ce qu'on le tire? On ne le tire pas. Et donc, on a accès aux réflexions des policiers à ce moment-là.
Karina Marceau, tu sais à quel point on t'apprécie. Tu reviens en studio quand tu veux. Ça a été un plaisir de jaser avec toi en vous rappelant que Fusillade au Parlement, qui est ton documentaire, va être présenté ce samedi 17 mai à 20h à Historia.
Merci, l'invitation, c'est toujours un plaisir.
Merci, Karina.
Merci à toi.
Salut, bye-bye.
Nous autres, on se laisse là-dessus, les amis. Pascal, je te souhaite de passer une belle fin de journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir, 18h, avec nul autre que l'exceptionnel Pierre Jobin.
Oui, chanceux, j'ai hâte de vous entendre. J'aimerais ça que tu y jases de le traitement de l'information aussi en 2025.
Aussi.
Ça fait des années, là, que lui a travaillé là-dedans puis qu'il voit justement les genres de changements de paradigme.
Parler de sa retraite aussi. Il doit piloter son avion assez souvent.
Oui, mais tu sais, on pensait qu'il allait finir à la télévision puis prendre la retraite. Et après ça, il est allé en radio après ça. T'enlèves-tu ça, toi, un moment donné, le trip de l'actualité?
Fait que je vais vous retrouver en compagnie de Pierre Jobin ce soir à 18h. Sinon, d'ici là, Véro sera là avec Audrey et Nathan Meyer à partir de 14h. Nous autres, on se laisse avec les Cowboys fringants. L'Amérique pleure. À tantôt, tout le monde. Bye-bye.